Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
Et l'on va évoquer la stratégie d'un autre homme politique, Donald Trump. Nous sommes en compagnie de Bruno Tertrais, qui est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, qui est spécialiste de stratégie et de relations internationales. Vous avez notamment publié La revanche de l'histoire, c'est chez Odile Jacob. Laure Mandeville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Figaro. Vous avez publié Qui est vraiment Donald Trump? C'est paru aux éditions des Équateurs. Alors, Donald Trump ne serait probablement pas réélu en France, mais d'après les informations dont nous disposons, c'est plutôt les États-Unis qui l'intéressent. Et là, comment ça se passe sur le plan politique, Laure Mandeville, pour lui?
Mais écoutez, je pense qu'on est un peu toujours dans la même situation depuis qu'il est arrivé aux affaires, mais avec quand même un taux de popularité qui est, je dirais, assez solide, puisque aujourd'hui, Donald Trump, dont tous les experts, enfin énormément d'experts avaient annoncé la dégringolade, voire la destitution quasi immédiate, c'était un discours extrêmement fréquent à Washington, est toujours là, soutenu complètement, je dirais, de manière inconditionnelle par son électorat, et même ayant gagné quelques points au fil des temps, puisqu'il est aujourd'hui à environ 45% de soutien. C'est-à-dire le taux auquel Obama était à la même époque de son mandat. Et donc, il tient la route. La situation économique lui est très favorable. Et je crois aussi que son électorat lui est extrêmement reconnaissant, en réalité, d'avoir peu à peu égrené ses promesses et de les avoir, d'une certaine manière, tenues ou avoir commencé de tenter de les tenir.
Et tout ce qu'il fait, il l'avait dit, cela faisait partie de son programme, Laure Mandeville ?
Quasiment. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un si vous voulez, va et vient. On l'a vu que le style Trump n'est pas un homme de doctrine. Il a quelques idées forces qu'il avait lancées dans sa campagne et sur lesquelles il a effectivement,
peut-être peut-on les rappeler,
travaillé. Donc lutter contre l'immigration, redéfinir les règles du commerce international pour protéger l'ouvrier américain, sortir de l'accord climat s'il n'est pas favorable aux intérêts américains, sortir du traité de commerce pacifique s'il n'est pas favorable aux intérêts des États-Unis, renégocier l'ensemble des relations de l'Amérique avec ses alliés pour que, en fait, le deal, comme il dit, soit plus favorable aux États-Unis qu'il estime être exploité par l'ensemble de ses alliés internationaux, parce que c'est le gendarme du monde et il veut remettre en cause partiellement, en fait, cette approche. Il y a aussi, évidemment, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, la dénonciation du traité avec l'Iran. Enfin, comme vous voyez, c'est quand même assez spectaculaire.
Alors, toujours pour poursuivre, parce que malgré tout, le phénomène Trump intrigue, Laure Mandeville, comment expliquer qu'un certain nombre de ces mesures soient perçues ici comme des mesures agressives, belliqueuses, et qu'elles ne fassent pas peur, à moins que vous me disiez le contraire, qu'elles ne fassent pas peur aux États-Unis, aux Américains?
Alors, je pense qu'on ne peut pas dire qu'elles ne font pas peur aux Américains, parce que ça dépend de quelle Amérique on parle, puisque, en fait, les États-Unis sont aujourd'hui un pays, je dirais, dans un état de division extrême, où toute une partie du pays, et notamment, je dirais, une très grande partie des élites américaines, rejettent Trump. Absolument, depuis le début, ils sont dans un état de sidération depuis le début depuis son arrivée au pouvoir, et ils ne s'en sont pas remis. Et donc, en fait, tout ce qui est fait aujourd'hui se fait dans l'espoir qu'il va disparaître, qu'il va pouvoir dégager de la scène. Et donc, de ce point de vue-là, cette partie de l'Amérique est en accord total dans son analyse avec l'analyse qui est faite notamment en Europe et dans bien des pays étrangers.
Bruno Tertrais.
Il faut quand même se souvenir que cette partie-là de l'Amérique, qui est souvent celle que nous, Européens, connaissons le moins bien, celle qui ne vit pas ni sur la côte Est ni sur la côte Ouest, cette Amérique-là, cette Amérique dont parle Laure Mandeville, c'est une Amérique qui, très largement, vit dans un monde à part du point de vue de l'information, tout simplement. Il y a les grands médias américains avant l'avènement des réseaux sociaux. Les grands médias de cette Amérique-là, c'était les radios locales. Les radios locales, c'est un monde extrêmement particulier. particulier, extrêmement puissant, souvent, dans lequel qui ne sont pas exactement France Culture, si vous me pardonnez cette comparaison, c'est même l'inverse.
C'est Américain Culture, peut-être.
Non, mais c'est surtout... Non, parce qu'il n'y a pas du tout cette culture du débat et de la réflexion. Ce sont des radios dans lesquelles on vous assène un certain nombre de choses et on ne prend au téléphone que des gens qui parlent, qui pensent comme vous, etc. Donc, il faut quand même... Il n'y a aucun mépris de ma part vis-à-vis de ces gens, mais ils vivent dans un monde qui est totalement différent.
Mais quand on voit, par exemple, l'attitude de Donald Trump par rapport à l'Iran, par rapport au déplacement de l'ambassade des États-Unis depuis Tel Aviv jusqu'à Jérusalem, quel que soit ce que l'on pense de ces décisions, on peut se dire qu'elles vont être de nature à soulever de la violence. Et donc, du coup, on se demande comment ces Américains y adhèrent de manière, semble-t-il, assez enthousiaste. Je parle de l'électorat de Donald Trump.
Non, ces décisions, elles ne génèrent absolument pas de violence. Le problème, c'est que Trump génère...
De la violence là où elles sont faites. Je veux dire, par exemple, la politique que Donald Trump poursuit au Moyen-Orient n'est pas de nature, sauf si vous me dissuadez, à faire une paix rapide entre Israéliens et Palestiniens.
Non, mais même si je pense que... Enfin, je ne suis pas sûr que la décision sur l'ambassade était en elle-même une génératrice d'une grande violence. C'est un autre sujet, mais le problème, c'est que cette partie de l'Amérique dont nous parlons, que Laure et moi connaissons, je pense, assez bien, c'est une Amérique assez violente. C'est une Amérique dans laquelle la culture de la violence, on le voit presque tous les jours avec la question des armes à feu, est quand même quelque chose de très prégnant. Et le problème de Trump, c'est qu'il a justement en partie libéré ou relégitimé certaines formes de violence. On a vu ça à propos des émeutes raciales l'année dernière. Il y a une libération et une légitimation de cette culture violente qui est déjà très présente et très prégnante dans cette Amérique rouge. Je dis rouge, c'est la couleur du parti républicain, et ça, cette Amérique de rapport de force, cette Amérique de violence physique, c'est quelque chose que Donald Trump incarne extrêmement bien sur la scène mondiale.
Moi, je ne suis pas complètement persuadée que l'Amérique de Trump, c'est l'Amérique violente contre une Amérique qui serait une Amérique pacifique et totalement intelligente et elle consciente de ce qui se passe. Il me semble que ce qui s'est passé notamment au Moyen-Orient, justement après l'annonce d'une violence, que ça allait être une véritable catastrophe, ce qu'on a vu finalement, c'est qu'il n'y a pas eu de conséquences, je dirais, majeures de cette décision précisément. Et vous savez très bien
c'est ça qui est difficile à mesurer.
Mais ce que vous savez très bien, c'est que l'accord israélo-palestinien, ça fait des décennies qu'on essaie d'y arriver. Pour l'instant, personne n'a jamais réussi à signer un tel accord. Et c'est précisément parce qu'il estime que la méthode qui a été utilisée jusqu'à présent ne marchait pas, que Trump a décidé d'utiliser une autre méthode. Alors on peut la critiquer complètement, et je ne suis absolument pas sûre qu'elle va déboucher sur quoi que ce soit, mais je crois que son électorat lui laisse le bénéfice du doute. Et en ce qui concerne la question de la violence, je dirais aussi qu'il ne faut pas oublier qu'une grande partie de l'électorat Trump, c'est un électorat qui, comme lui, pense que l'Amérique doit être forte dans le monde et que le rapport de force est absolument indépendant, essentiel, et ça c'est vrai ce que dit Bruno, c'est-à-dire qu'il pense le monde en termes de rapport de force, une vision, je dirais, plus confrontationnelle et plus réaliste, alors que la vision multilatérale d'Obama, c'est une vision selon laquelle la diplomatie peut dénouer les conflits. Et eux pensent que ce n'est pas nécessairement la meilleure méthode, ou en tout cas que c'est un mélange de force et de diplomatie qui peut arriver à, par exemple, ce qu'on voit aujourd'hui se produire en Corée du Nord, Singapour, sur la question de la Corée du Nord.
En tout cas, alors, Bruno Tertrais, on retrouve peut-être ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la stratégie de la pression maximale. Je parle du Proche-Orient, là.
Oui, et là, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Laure sur la question du transfert de l'ambassade, c'est ce que je voulais souligner tout à l'heure. Autant il est absurde de dire que Obama avait raison sur tout, c'est en tout cas c'est certainement pas moi qui le dirais, autant il est absurde de dire que Trump a par nature tort absolument partout. Prenons effectivement la question du transfert de l'ambassade. Il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas dénier à Trump, c'est de vouloir casser les codes de la diplomatie et parfois faire bouger les lignes au point de renverser la table quand les situations sont bloquées. Et sur la question du transfert de l'ambassade, son raisonnement qui consistait à dire « ça fait 30 ans qu'on fait quelque chose qui ne marche pas, moi je vais essayer autre chose », le calcul n'était pas totalement absurde. Et la décision, on peut la comprendre. Le problème, c'est que comme souvent...
Expliquez-nous.
Le problème, c'est que comme souvent avec Trump, il peut avoir l'idée de créer un choc pour dénouer une situation bloquée, comme celle du Proche-Orient, effectivement, mais que ça ne s'insère pas dans une stratégie, dans un plan général. Et autrement dit, il peut avoir des idées qu'on peut qualifier de diplomatiquement intéressantes, mais qui, dès lors qu'elles ne s'inscrivent pas dans une stratégie d'ensemble, n'ont aucun sens et font plus de mal que de bien. C'est ça le problème avec Trump, finalement. Et dire « je suis prêt », rappelons-nous quand même, il l'avait dit dès la campagne électorale, dire « je suis prêt à manger un hamburger avec Kim Jong-un », il le dit pendant la campagne électorale. Ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd à Pyongyang. C'est effectivement pas absurde du tout, casser les codes, dire pourquoi pas un sommet entre nous deux. Mais le problème, comme on le disait tout à l'heure, c'est que, à mon avis, ça s'inscrit dans une illusion, l'illusion qu'il suffit, je suis Donald Trump, j'arrive, je casse les codes et ça suffit. Illusion qu'on, à mon avis, qu'on a vu sur l'Iran, qu'on a vu sur le Proche-Orient et qu'on voit aussi, à mon sens, sur la Corée du Nord.
Oui, alors moi, je ne suis pas totalement d'accord. En tout cas, je pense que nous sommes dans l'incertitude et dans le brouillard, ce qui va se passer suite à la politique étrangère de Trump sur, en réalité, beaucoup de dossiers. Sur le dossier, je ne dirais pas, je pense que Bruno a raison de souligner le caractère, disons, instinctif et non théorisé de l'approche de Trump, mais je ne dirais pas qu'il n'y a pas de stratégie derrière ce que fait Trump. Et je pense que c'est au Moyen-Orient, il y a un pari qu'on peut estimer fou ou totalement irréaliste, mais qui existe.
Quel pari ?
Le pari selon lequel Trump va miser sur une stratégie anti-iranienne. C'est-à-dire que ce qu'il veut faire, c'est réunir Israël et un certain nombre de pays arabes clés, comme l'Arabie Saoudite ou l'Égypte, autour d'une stratégie qui viserait à forcer le bras, à tordre le bras des Palestiniens, qui clairement, dans cette approche, je dirais, sont un peu les perdants de cette solution, c'est-à-dire que ça serait une solution au rabais, leur forcer la main pour les pousser finalement à avaler la solution qui leur sera finalement imposée par les pays arabes avec l'accord d'Israël. Donc ça, je pense que c'est la stratégie de Trump au Moyen-Orient. La stratégie en Corée du Nord, je ne pense pas seulement que ça puisse être résumé, mais et d'ailleurs, ce n'est pas d'ailleurs ce que Bruno voulait dire, à l'idée de manger un hamburger avec Kim Jong-un. Je pense que Trump a été confronté à son arrivée à la présidence à un problème majeur que lui a d'ailleurs signalé Obama en lui disant « Vous allez avoir un problème majeur sur le dos, c'est le nucléaire nord-coréen. » Et là-dessus, on a cette série d'essais qui tout d'un coup lui fait prendre conscience que l'Amérique se retrouve vulnérabilisée et potentiellement à distance de missiles nucléaires nord-coréens. Et donc, il décide un jeu, je dirais, qu'on peut qualifier de disruptif, enfin de nouveau, qui est un jeu sur le fil du rasoir. C'est-à-dire, en gros, la théorie du madman, de l'homme fou, je vais faire un malheur si vous ne reculez pas sur la question de la dénucléarisation que moi, j'exige totale, contrairement à mes prédécesseurs, on ira à une solution militaire. Et il dit ça à tous les acteurs de la région, à la Chine, à la Corée du Nord, à la Corée du Sud et au Japon. Et ces acteurs commencent à bouger pour essayer de sortir de cette impasse.
Mais alors, vous parlez beaucoup de stratégie extérieure. Il y a quand même une stratégie aussi intérieure. Alors, pour le Proche-Orient, c'est particulièrement clair. Il a ses électeurs, beaucoup d'évangélistes qui sont très sensibles à son discours sur Jérusalem. Moins d'ailleurs les juifs américains, puisque ceux-ci, d'après un dernier sondage, sont de plus en plus proches des démocrates. Mais en tout cas, cet électorat évangéliste qui est important, est-ce que finalement la stratégie de Donald Trump, Laure Mandeville, ça ne consiste pas d'abord à être élu ?
Alors ça fait partie évidemment du jeu et je pense que tout président de n'importe quel pays, mais particulièrement des États-Unis, a en tête son électorat. Mais je crois qu'il l'a effectivement en tête peut-être de manière beaucoup plus systématique que ses prédécesseurs et ça le caractérise. C'est-à-dire qu'en fait cet homme dit justement je suis un leader qui sort de l'ordinaire puisque j'ai tenu des promesses, j'ai fait des promesses et contrairement aux hommes politiques classiques, moi je suis un homme d'affaires et je les tiens. Et donc ça le différencie et c'est pour ça que son électorat le soutient encore, je pense. Il le voit comme un électron libre, un homme anti-système qui se débat dans cet ancien monde et qui essaie de le pulvériser pour le changer. Et vous avez raison de dire aussi que évidemment que Trump s'appuie sur des pans de son électorat, par exemple sur les chrétiens évangélistes qui eux soutiennent. Vous savez qu'ils ont une relation tout à fait particulière avec Israël et qu'ils ont certainement certainement été à applaudir de manière massive la décision qu'il a prise, et ils l'ont même peut-être soutenu et pressuré d'y aller. Mais je pense qu'il faut se garder de voir Trump comme un homme qui serait le jouet de différents lobbies, et que le dernier qui aurait parlé ferait pression sur lui. C'est-à-dire que c'est un homme qui est capable de trahir, je pense, à peu près tout le monde, s'il pense que ça va lui permettre d'arriver à son but. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas prisonnier. Je ne pense pas qu'en en ultime recours, Trump se sente prisonnier du lobby chrétien évangélique, et qu'au moment venu, il sera prêt à les mécontenter s'il pense qu'il peut avoir une paix et faire des concessions sur la question, par exemple, des Palestiniens.
D'après une dépêche tombée à 8h29, les États-Unis et la Corée du Nord s'engagent à travailler à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, selon le document qui aurait été signé par Donald Trump et Kim Jong-un. Un commentaire.
C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure avant que ce communiqué paraisse. C'est-à-dire que, bien entendu, que ce communiqué allait mentionner ce sujet. Le problème, c'est que Donald Trump et Kim Jong-un ne voient pas du tout, mais alors pas du tout, ce sujet de la même manière. Et moi, ce que je crains, c'est le moment où Donald Trump réalisera que ça n'est pas le deal qu'il pensait passer. Donc voilà, ce n'est pas du tout une surprise. C'était prévu, il aurait été totalement anormal que ça ne soit pas dans le communiqué, mais ça n'engage absolument rien. Juste un mot pour dire que moi, je suis d'accord pour dire que Trump n'est pas du tout le jouet de lobby. Il a sa personnalité, sa diplomatie propre. Le problème, c'est qu'elle est justement un peu trop propre, mais qu'il a cette capacité à gâcher même si ce qui pourrait être des bonnes idées. Je reviens un instant sur le Proche-Orient. C'est pas Trump qui crée le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, puisqu'il existe déjà depuis 4 ou 5 ans, mais simplement, il l'encourage avec le camp républicain, très clairement. Mais lorsque il a des idées, on va dire, intéressantes, comme justement casser le jeu israélo-palestinien en transférant l'ambassade, au lieu de mettre ça dans le cadre d'une stratégie d'un plan de paix, il annonce cela à un moment où c'était à peu près le pire moment possible, alors que ça aurait été beaucoup plus intelligent, en tout cas ça avait du sens de le faire, beaucoup plus tard, dans le cadre d'un plan global, alors que le plan global, on l'attend toujours, est en préparation depuis 6 mois. Donc c'est pour ça que je suis très perplexe, parce que d'une certaine manière, on peut saluer cette volonté de casser des codes, de renverser la table, parce que parfois ça a des vertus en diplomatie où tout est tellement prévisible et compassé, et en même temps, il a la capacité de même gâcher ce qui peut-être potentiellement sont des bonnes idées.
Laure Mandeville, toujours pour continuer à essayer de comprendre les décisions de Donald Trump qui sont perçues comme étant étranges, j'utilise une litote ici, lorsque Donald Trump décide de ne pas signer le compromis au G7, y a-t-il une rationalité à cette décision de ne pas le signer ? On a évoquer une préparation en amont de son sommet avec Kim Jong-un, comme si Donald Trump voulait montrer à Kim Jong-un, en ne signant pas ce texte, qu'il pouvait avoir des décisions fortes, comme on dit.
Moi, je pense qu'il joue sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire qu'il se permet des choses. Il pense, en fait, que la réalité est flexible et qu'on peut revenir sur ce qu'on a fait, que la scène du monde, comme disait Shakespeare, est un grand théâtre et qu'il faut jouer plusieurs rôles à la fois. Il joue un rôle vis-à-vis de son électorat. Il lui montre que l'Amérique tient bon quand elle est, quand le président est de manière condescendante critiqué par le Canadien, dont il pense qu'il est un acteur moins fort que lui, donc il pourra revenir vers lui, éventuellement lui tordre le bras. Je nomme Justin Trudeau. Donc finalement, ça ne lui pose pas un énorme problème de faire ce coup de sang vis-à-vis de ses alliés et de les éduquer, entre guillemets.
Mais est-ce que c'est un vrai coup de sang ? Parce que c'est ça, en fait.
Non, je pense que c'est en partie calculé. Et vous avez tout à fait raison de penser qu'il envoie des messages sur des sujets différents. Et je pense qu'en fait, par exemple, le jeu qu'il a fait vis-à-vis de l'Iran et cette affaire du G7 sont aussi des messages qui sont envoyés à Kim Jong-un sur le fait qu'il ne faut pas le prendre pour un imbécile. Et que si Kim Jong-un a l'intention de lui tendre un un piège, ce qui n'est pas exclu, et je sens le scepticisme de Bruno, il en est lui aussi partiellement conscient, et qu'il sera prêt d'une certaine manière à faire une volte-face. Je pense que ce qui est quand même important de noter sur l'affaire de la Corée du Nord, c'est que, moi je ne serais pas tout aussi sceptique que Bruno, c'est que je pense que malgré tout, on ne peut pas savoir aujourd'hui s'il n'y a pas une opportunité extraordinaire et historique avec deux personnages pourtant dont on n'aurait pas pu imaginer qu'ils travaillent ensemble, et après les échanges d'insultes qu'il y a eu entre eux, qu'ils puissent amorcer finalement la signature d'une paix entre les deux Corées, ce que quand même tout le monde attend depuis la fin de ce conflit dans les années 50, et peut-être l'émergence d'une solution sur la péninsule. Alors il y a d'énormes interrogations, parce que on ne sait pas quelles seront les garanties possibles que pourraient donner les Américains à une dénucléarisation totale de la péninsule. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils se retireraient, auquel cas ça serait évidemment un truc énorme sur le plan stratégique?
Bruno Tertrais.
Il n'est pas question aujourd'hui pour les Américains de se retirer de la péninsule, même si le Pentagone ne verrait pas d'un mauvais œil une réduction, ou plutôt un transfert d'une partie des forces américaines stationnées en Corée vers d'autres théâtres asiatiques. Pourquoi ? Pour justement traiter la Chine. Or, la Chine, c'est justement le troisième larron, parce que c'est le troisième signataire de l'armistice de 1953. Et c'est extrêmement important, parce que la paix sur la péninsule coréenne ne peut littéralement pas être signée sur le plan juridique, sans le plein assentiment de la Chine. Que demanderait la Chine dans un tel cas ? C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Et non, c'est vrai que je suis assez, vous l'aurez compris, pessimiste sur les chances d'une transformation complète des conditions de sécurité sur la péninsule. Et je crois que le problème essentiel, au fond, c'est de savoir si un régime comme celui de la Corée du Nord, qui n'est pas du tout un régime stalinien, comme on le dit parfois, mais plutôt un régime très particulier, une sorte de dictature asiatique très particulière, qui n'a rien de marxiste et rien de stalinien. Est-ce qu'un régime comme celui-là peut survivre à la paix, littéralement ? Est-ce qu'un régime comme celui-là n'a pas besoin d'être en confrontation permanente avec l'extérieur, avec un ennemi désigné ? Et personnellement, j'ai des doutes. Je crois que ça n'est pas possible. Ça n'est pas un régime réformable. C'est pas un régime dans lequel la culture politique et stratégique puisse être totalement transformée. Donc, oui, je reste extrêmement sceptique.
Lourmandeville, on a aussi beaucoup évoqué la politique de Donald Trump en matière de protectionnisme. Et puis, on s'est rendu compte, par exemple, que sur les droits de douane des voitures importées, finalement, les voitures américaines importées en Europe étaient plus lourdement taxées que les voitures européennes importées aux États-Unis. Autrement dit, sous prétexte donc de faire du protectionnisme, Donald Trump est peut-être en train de rééquilibrer un certain nombre d'accords commerciaux.
Exactement. Alors je dis tout de suite, je ne suis pas une spécialiste du commerce, mais je suis assez fascinée par la conversation qu'il est en train d'ouvrir sur un thème qui était un thème tabou, notamment au sein du Parti républicain. Imaginez que toute la classe politique républicaine est une sorte de... Pour eux, c'est une vache sacrée, c'est le libre-échange. Et évidemment que Trump n'est pas contre le libre-échange, mais c'est un homme qui raisonne non pas en termes digitaux, c'est-à-dire ou blanc ou noir, ou zéro ou un, mais en termes, je dirais, analogiques. C'est-à-dire, il faut qu'on change la conversation, il faut qu'on rééquilibre le commerce. Et en fait, ce qu'il essaie de faire à coups d'insultes, de points sur la table, de pression, de bras de fer avec ses alliés et ses adversaires, c'est d'essayer de redéfinir, de bouger le curseur dans un sens qu'il estime, lui, plus favorable aux intérêts américains. Et ce que vous mentionnez est assez intéressant, c'est que lui estime, et c'est un leitmotiv de ses convictions depuis les années 80, il en parlait déjà à l'époque dans des interviews télévisées, que l'Amérique se fait avoir en permanence sur le plan commercial. Et il ne comprend pas comment ses prédécesseurs ont pu si longtemps laisser les choses en l'état. Donc vous avez raison, il va essayer en homme d'affaires, peut-être de manière presque micro-économique, d'obtenir quelques avancées, peut-être quitte à lâcher sur d'autres sujets.
Bruno Tertrais.
Ce qui est quand même d'ailleurs un petit peu fort de café quand on voit le protectionnisme auquel les Européens font face, justement, lorsqu'ils veulent exporter aux États-Unis. Les règles tarifaires, les règles qui sont imposées par l'administration américaine font qu'à mon avis, quand l'Amérique se plaint du protectionnisme européen, franchement, ça n'est pas tellement crédible.
D'un autre côté, il y a plus de voitures allemandes aux États-Unis que de voitures américaines en Allemagne.
Certes, mais il ne vous aura pas échappé que le commerce transatlantique concernait un petit peu autre chose que les voitures. Et ce sont même les deux sphères économiques les plus intégrées du monde.
Mais à cet égard, lorsque Donald Trump décide de rééquilibrer les taxes, il le fait sur des produits dont il estime peut-être justement qu'ils sont sous-pondérés dans le commerce international.
Oui, mais en tout cas, il le fait, je le note, sur des choses extrêmement symboliques. Il a utilisé, par exemple, sur l'acier et l'aluminium, il s'est servi d'une vieille règle juridique américaine qui fait que le président peut prendre certaines décisions sur la taille parce que ce sont des matériels de guerre. Littéralement, hein. C'est quand même bon. Si vous voulez, quand on parle de l'automobile, de l'acier, de l'aluminium, on parle d'une certaine Amérique. Vous voyez, c'est pas totalement anodin. Alors que si vous lui parlez des OGM, des choses comme ça, je pense que son discours sera peut-être un petit peu différent. Donc là, il y a une symbolique.
Il serait favorable aux OGM, c'est ce que vous voulez dire.
Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que
il n'a marqué aucune hostilité à cet égard pour l'alimentation animale. Ce type de loi n'ont pas du tout été touchées par Donald Trump. D'ailleurs, elle ne l'a n'était pas non plus par Barack Obama.
Non, c'est possible, effectivement. Ce que je note, c'est qu'il s'adresse à des matières, à des choses qui sont celles de son Amérique, de l'Amérique traditionnelle, celle qui a voté pour lui.
Un mot de conclusion.
Oui, je pense que ce qui est intéressant, finalement, c'est que Donald Trump, d'une certaine manière, fait tomber les masques. C'est un homme qui dit, au fond, vous nous avez présenté un monde vertueux, le commerce international complètement libre. Et en fait, ce n'est pas la réalité. Et on sait bien que si, effectivement, comme le dit Bruno, il y a du protectionnisme à tous les maîtres dans la manière dont les Américains approchent le commerce international, c'est exactement la même chose du côté européen. Je ne parle même pas de la Chine. Et donc, au fond, il veut ramener le monde dans une certaine réalité. Et en fait, c'est ce qui me frappe chez cet homme, c'est que finalement, il est dans le principe de réalité d'une manière brutale, parfois dangereuse, mais peut-être aussi qui peut accoucher d'une certaine de quelque chose d'un peu nouveau.
Laure Mandeville, votre livre « Qui est vraiment Donald Trump ?» est paru aux éditions de L'Équateur, et Bruno Tertrais, « La revanche de l'histoire » est publié chez Odile Jacob.